Table ronde sur le thème « Quelle économie de l'adaptation ?» Et j'ai le plaisir d'accueillir à cette table Stéphane Bouillon, qui est secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Anne Guerrero, directrice déléguée de la transition écologique de la SNCF. Pascal Berthaud, directeur général du CEREMA. Patricia Criffaut, professeure à l'école polytechnique. Jacques Rosemont, responsable du pôle engagement et politique ESG et expert climat du groupe Caisse des dépôts. Et pour animer cette session, Vincent Viguier, chercheur au CIRED à l'école des ponts Paris Tech.
Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc cette session porte sur quelle économie de l'adaptation, c'est-à-dire comment se donner les moyens pour faire une adaptation efficace et notamment quels moyens donner aux entreprises privées et aux collectivités locales pour ce faire. Et alors, avant de donner la parole aux panélistes, j'aimerais juste commencer par revenir sur deux grands enjeux, je pense, qui sont importants pour ce thème. Alors, d'abord, la première question, c'est que la mise en œuvre de l'adaptation, c'est par nature quelque chose qui doit être fait à différents niveaux. C'est quelque chose qui doit être fait par l'État, par la collectivité nationale, mais également par des collectivités locales et par des entreprises privées. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que, comme pour beaucoup de politiques publiques, différents niveaux de gouvernance ont des leviers d'action différents, parce que aussi différents niveaux de gouvernance ont des niveaux d'information différents sur leur territoire, sur leur domaine d'activité, etc. Ça, c'est quelque chose qui est assez général. Mais aussi un point qui est très spécifique avec l'adaptation et qui d'ailleurs a été cité dans la dernière table ronde par Marc Roussel, c'est le fait que l'enjeu dans le cas de l'adaptation est très différent de ce qu'on peut avoir dans le cas d'autres politiques environnementales. Si on regarde par exemple la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, comme ça a été dit tout à l'heure, réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est quelque chose que chacun peut faire parce que ça peut présenter des effets secondaires très positifs, mais disons que la raison fondamentale de réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est pour limiter le réchauffement climatique, et c'est quelque chose qui n'a de sens que si tout le monde réduit ses émissions. Et du coup, dans le cadre des politiques de réduction des émissions, l'action de l'État est complètement justifiée. L'action de l'État est nécessaire parce que sans action publique, quasiment personne n'a véritablement d'intérêt à essayer de freiner de lui-même le réchauffement climatique. Dans le cas de l'adaptation, c'est complètement différent. Parce que l'adaptation, c'est quelque chose que l'on fait pour son bien propre. En fait, on peut s'adapter en étant complètement égoïste. Et du coup, dans ce cas-là, la justification de l'action de l'État pour faire en sorte que des entreprises ou des territoires soient adaptés, elle est beaucoup moins évidente. Alors en même temps, l'idée c'est pas de dire que l'État n'a rien à faire. Au contraire, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, par exemple dans la littérature académique, mais aussi dans beaucoup de rapports de différentes institutions, qui montrent que l'État a beaucoup de choses à faire. Simplement, l'action de l'État concerne des domaines bien précis, mais des domaines qui sont nécessaires. Alors il y a par exemple la question de fournir une information adéquate. Une information sur le changement climatique, sur ses conséquences, mais également de faire en sorte que l'information soit utilisable par les différents acteurs. C'est-à-dire faire en sorte que dans la population, il y a suffisamment de personnes formées à ces enjeux, de manière à ce que les entreprises et les collectivités soient capables de mettre en place des stratégies d'adaptation. Un autre gros enjeu de l'action publique, c'est la coordination entre différents acteurs. En fait, si chacun s'adapte dans son coin, ça fait une adaptation qui n'est pas forcément efficace. En fait, on peut s'adapter en aggravant la situation pour d'autres personnes. On peut s'adapter même en aggravant sa propre situation long terme. Il y a beaucoup d'exemples là-dessus. Par exemple, si vous prenez les questions de baisse d'accès à l'eau potable, c'est un domaine dans lequel une action de coordination de la part de l'État est nécessaire. Sinon, chacun risque d'essayer de prendre de l'eau pour son bénéfice propre. De la même manière, vous pouvez avoir un certain nombre d'acteurs par exemple des entreprises privées, dont le rôle social va au-delà de leur simple bénéfice. Typiquement, toutes les entreprises de réseau. Et du coup, dans ces cas-là, l'État a un rôle à jouer dans le maintien de ces activités. Bon, il y a beaucoup de choses de ce type-là. Également, l'État a un grand rôle à jouer dans les questions d'équité, l'adaptation, et de faire en sorte que, par exemple, il n'y ait pas de collectivité qui ne soit pas capable de mettre en œuvre des actions d'adaptation simplement pour des questions de contraintes budgétaires locales. Voilà. Et du coup, se donner les moyens de s'adapter, c'est se donner les moyens de, d'atteindre tous ces objectifs. Alors, à l'heure actuelle, on n'est pas encore à ce niveau-là. Hein. C'est ce que montrent, par exemple, les rapports du Haut Conseil pour le climat ou encore au printemps dernier, le rapport de la Cour des comptes sur ce sujet. Il y a un certain nombre de facteurs qui expliquent pourquoi est-ce que c'est difficile de mettre en place comme ça une stratégie d'adaptation efficace. D'ailleurs, c'est difficile en France, mais c'est également difficile dans les autres pays européens et plus généralement un peu partout dans le monde. Il y a différents freins qui expliquent ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tous, mais j'aimerais juste revenir sur un frein que je trouve particulièrement important ou particulièrement emblématique, qui est le fait que une des choses qui manque pour être capable de s'adapter, c'est d'avoir une stratégie claire. C'est-à-dire qu'en fait, une stratégie claire, c'est quelque chose qui est nécessaire, par exemple, ne serait-ce que de manière à pouvoir déterminer le montant de financement dont l'adaptation a besoin. En fait, pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce qu'il y a toujours plein de manières très différentes de s'adapter aux impacts de réchauffement climatique, manières très différentes qui amènent à des coûts différents, qui amène à des bénéfices différents, qui amène à des acteurs différents devant supporter des changements, etc. Et en fait, lorsqu'on n'a pas tranché ça, bah, ça devient très difficile d'aligner des politiques publiques de manière à être, avoir une politique efficace. Bon, juste pour citer quelques exemples, en fait, la vraie question, c'est la question de savoir collectivement ce qu'on va être prêt ou non à transformer de manière à s'adapter aux impacts du climat et quel va être ce à quoi on va être prêt à renoncer ou non suite aux impacts du réchauffement climatique. Par exemple, avoir un réseau de transport en commun qui fonctionne parfaitement 100% du temps n'amène pas du tout aux mêmes investissements de défense, de redondance du réseau, de choses comme ça, que si on veut avoir un réseau de transport en commun qui fonctionne bien 90% du temps. En même temps, un réseau de transport en commun qui ne fonctionne bien que 90% du temps, ça veut dire des pertes économiques pour certains acteurs. Et le choix entre les deux, bah, ce n'est pas un choix technique, c'est un choix politique de comment on fait. Et des questions comme ça, il y en a beaucoup. Si vous prenez la montée du niveau de la mer, le fait de savoir quelle part donner aux défenses, quelle part donner au retrait, et dans le cas du retrait, quelle compensation donner aux expropriations, et surtout qui doit payer pour ces expropriations, est-ce que c'est la solidarité internationale ou non, tout ça sont des questions d'ordre politique qu'il faut trancher pour être capable d'avancer. Donc voilà un peu un cadrage général. Et sur ces questions, donc aujourd'hui nous avons la chance d'avoir un certain nombre d'intervenants. Donc tout d'abord Patricia Criffaut, professeure à l'école polytechnique, qui va également compléter ce cadrage.
Merci Vincent pour me passer la parole. Je vais essayer d'être bref parce que dès que vous donnez la parole à une économiste, après ça dérape. Donc tu n'hésiteras pas à me rappeler à l'ordre. Mais sur la question de l'adaptation, en fait, le point sur lequel, un peu en introduction au débat, je pense intéressant de revenir, c'était sur Vincent l'a bien souligné, les interactions entre la sphère publique et la sphère privée, c'est un vrai sujet en fait qui n'est pas du tout évident, qui n'est pas du tout simple à penser pour plein de raisons. En fait, on peut avoir un regard là-dessus qui peut être vraiment protéiforme. Moi, la manière dont je vais le prendre, en fait, je vais rebondir sur l'actualité. La COP29 hier s'est terminée sur un accord qui prévoyait environ 300 milliards de dollars de financement annuel pour les pays en développement. Et cet accord, on peut se dire, c'est trois fois plus que la COP28. Hein, c'était 100 milliards l'année dernière. Donc on a un montant qui est quand même assez important pour l'adaptation pour des pays. On a parlé d'équité tout à l'heure, de justice sociale. Donc pour des pays qui sont ceux qui en souffrent le plus du changement climatique. Mais cet accord, en fait, il est loin de faire l'unanimité. Parce que certes, donc je l'ai dit, on a augmenté d'un facteur 3 ce qui était promis l'année précédente. Mais en fait, la plupart des pays dénoncent un manque d'ambition et un déficit d'investissement privé qui est vraiment dramatique. Entre 2016 et 2021, seulement 25% des financements climat destinés aux pays en développement ont été alloués à de l'adaptation. Donc seulement un quart, et seulement 2% des financements pour l'adaptation provenaient du secteur privé. Donc c'est compliqué de dire on va s'en remettre à la puissance publique parce qu'on n'a pas forcément les moyens de développer les financements comme il le faudrait. Et si on s'en remet sur la sphère privée, vous voyez qu'on a un déficit qui est quand même assez dramatique parce que l'un des sujets de l'adaptation, c'est quand même d'agir vite et dès maintenant. Donc les là, je cite des chiffres en fait qui sont assez consensuels. Hein. C'est la Banque asiatique du développement, c'est la Banque mondiale qui ont souligné ça pour les économies en développement, mais même pour les économies développées. Même en France et en Europe, on a un déficit de financement et on a la nécessité de mobiliser les financements privés. Enfin, je veux dire, quand il s'agit de mobiliser, c'est vraiment il va falloir que le secteur privé se bouge vraiment parce qu'on est vraiment loin du compte et que l'horloge tourne, quoi. Alors, la deuxième casquette que j'ai dans cette table ronde, c'est j'ai à la fois une casquette voilà, d'enseignant-chercheur, mais aussi un peu de public policy parce que je siège au collège de supervision de la CPR, qui est le gendarme des banques et des assurances. Et on essaye de. Il y a 5 ans, une commission climat et finances durables a été créée au sein de cette instance, qui a pour objectif, non pas vraiment de superviser le secteur financier et son comment il finance l'adaptation au changement climatique, mais en tout cas on n'a pas un pouvoir de sanction, hein, de vraie supervision, mais plutôt un pouvoir de recommandation, on va dire. Et on essaye, voilà, au sein des pays européens, enfin, et pour la France en particulier, de développer ça. Et pourquoi j'ai accepté de siéger dans une instance comme ça, c'est justement pour mettre à disposition du secteur privé les résultats de la recherche publique là-dessus. Parce qu'à l'École Polytechnique, on a développé beaucoup d'initiatives pour essayer d'être un véritable démonstrateur en fait de la transition et de l'adaptation au sein du campus. Hein, sur notre campus, on a des démonstrateurs de la transition écologique pour tester des solutions qui sont développées par des chercheurs, par mes collègues physiciens, chimistes, etc. On a un lac avec des systèmes de captage et de stockage. On a des bâtiments intelligents. Enfin, c'est vraiment ce qu'on appelle un véritable living lab. Et tout ça, on arrive à le mettre en place grâce à des financements privés. Donc, on retrouve la dialectique, hein, financement public-privé. C'est vraiment hyper important de s'associer à des chercheurs pour en faire un peu la démonstration de cette transition et démontrer notamment un des points moi qui me concerne plus parce que je suis économiste, c'est que c'est économiquement viable. En fait, l'adaptation, c'est pas un coût, c'est une opportunité économique. Et mes travaux personnels sur le sujet montrent que je fais du big data appliqué aux entreprises. Je prends des bases de données, soit des bases de données de mesure de la performance environnementale et sociale, ou des bases de données issues de l'INSEE, de pratiques des entreprises. Tout à l'heure, Vincent mentionnait le fait que pour que l'adaptation puisse être financée, il fallait des stratégies claires. Ben, on regarde ce que c'est qu'une stratégie claire à l'échelle de l'entreprise, comment ça se mesure en pratique. Et on montre qu'il y a bien un effet positif sur les profits. En fait, tout se passe comme si les entreprises sont un peu myopes, en fait. Hein. C'est pas forcément qu'elles veulent mal faire ou qu'elles savent pas faire, c'est qu'elles anticipent pas forcément les bénéfices économiques qui sont réels. Je peux vous donner un chiffre, hein, on aime bien les chiffres en économie, plus 13% en moyenne de gains de compétitivité et de performance pour les entreprises qui ont des stratégies claires en faveur de ces sujets-là. Et puis des synergies, il y a aussi des effets synergiques entre les dimensions environnementales et sociales. Et donc, voilà, on a énormément à perdre à l'inaction, mais on sous-estime les bénéfices de financer ces stratégies d'adaptation. Voilà, je vais repasser la parole.
Et on, okay, bah, merci dessus. Patricia. Et alors, du coup, dans une première séquence, je vous propose d'avoir les points de vue d'Anne Guerrero. Et de Jacques Rosemont. Et du coup, la première question que j'aimerais vous poser, donc suite aussi aux discussions qu'on a pu avoir, c'est quel est le coût actuel de l'adaptation pour les entreprises et les collectivités ? Et le changement climatique a-t-il déjà un coût pour votre activité ? Mettez-vous déjà en place des stratégies d'adaptation ? Et quel est le coût de ces mesures dans votre expérience ? Peut-être Madame Guerrero.
Merci de nous donner la parole et puis de nous avoir invités à cette session du comité 21 qui est évidemment très importante parce que c'est quand même un sujet, l'adaptation au changement climatique, sur laquelle on travaille depuis quand même plusieurs années parce qu'effectivement c'est un enjeu majeur pour la SNCF, mais pas que pour la SNCF, c'est un enjeu majeur évidemment pour la collectivité puisqu'on est là, on est un service public, hein, donc forcément... On est une activité majeure qui va permettre de faire fonctionner l'économie du pays. On n'est pas les seuls, bien entendu, mais en étant service de mobilité, on est au cœur du système. Alors, je rappelle quand même, parce que ce n'est pas très simple, il y a une question qui est très simple, mais la réponse est évidemment beaucoup plus complexe. Et donc, ne serait-ce que le fait d'être nous-mêmes cinq sociétés anonymes. Hein, la SNCF, c'est une société, il y a une holding qui va gérer effectivement la coordination et la cohérence de l'ensemble du système ferroviaire. Mais il y a également deux SA qui sont gestionnaires d'infrastructures, hein, le réseau et les gares. Et puis après, il y a des entreprises ferroviaires, marchandises et voyageurs. Et on a aussi deux filiales, Geodis et Keolis. Et donc, il va falloir mettre tout le monde d'accord aussi aux bornes du système ferroviaire. Et ce n'est pas toujours très simple, comme on en avait échanger tous les deux. Et donc, en tout cas, pour nous, c'est un enjeu majeur, parce qu'on a un service public et on a une responsabilité en matière de pour délivrer en fait le service ferroviaire qui est attendu et permettre l'accessibilité à tous à la mobilité. Que le changement climatique, il est déjà là, comme on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Hein. Ce n'est pas une option. Donc, de toute façon, on a un impératif et il faut s'y mettre. Et puis, on l'a évoqué aussi, évidemment, que l'adaptation, alors c'est encore plus vrai chez nous, que l'adaptation, c'est une condition quand même de l'atténuation, puisqu'on fait partie de la solution pour la réduction des émissions de CO2. Et donc, forcément, si on n'arrive pas à s'adapter, on n'arrivera pas à faire rouler nos trains, si on caricature un peu, et grosso modo, on n'arrivera pas à contribuer à la décarbonation des transports. Voilà. Et enfin, nos activités et nos actifs sont essentiellement des actifs et des activités de plein air. Donc en fait, évidemment, on subit le changement climatique de plein fouet tous les jours. Voilà, donc ces changements, ils sont déjà perceptibles. Et donc pour pouvoir quand même évaluer les coûts, il faut déjà qu'on sache qu'est-ce qu'on tague d'événements climatiques qui peut impacter en fait notre service. Et donc il y a tout ce qui a impact physique sur notre patrimoine. Hein. On voit bien, bah, évidemment, quand il y a des catastrophes, on voit bien bah, si effectivement l'infrastructure ferroviaire est interrompue et abîmée. Forcément, là, il y a un impact direct. Mais on a aussi en fait une usure prématurée là de l'infrastructure, du matériel roulant, de nos bâtiments en gare, etc. Donc ça en fait partie. Il y a tout ce qui est impact sur, déjà tangible sur nos organisations, sur nos agents. Quand il fait très chaud, on en a parlé tout à l'heure, ça rend le travail beaucoup plus pénible. Ça veut dire aussi des augmentations du nombre d'astreintes à partir du moment où on a plus d'événements météo à gérer. Ça veut dire aussi des reports de périodes de travaux, des décalages des horaires, etc. Donc tout ça, ça a un impact et ça a un coût forcément. Il y a évidemment un impact sur le service délivré. Évidemment, à partir du moment où on est obligé de réduire la vitesse des trains ou de supprimer des trains pour des raisons évidentes de sécurité des voyageurs, forcément, ça a un coût sur notre chiffre d'affaires. Et puis, voilà. Et donc, forcément, ça a un impact sur notre économie et sur les coûts. Et donc, pour faire tout ça, et pour pouvoir l'identifier, il a fallu quand même qu'on travaille pendant plusieurs années sur nos vulnérabilités, donc à la demande de l'État, mais évidemment, heureusement, on avait quand même démarré avant, parce que ça, c'est pas en un clin d'œil. On avait engagé, en fait, l'analyse des vulnérabilités, notre exposition, en fait, aux aléas climatiques sur l'ensemble de nos actifs ferroviaires. Voilà. Donc, on sera au rendez-vous de la commande de l'État pour la fin de l'année, je vous rassure. Voilà. Et puis, donc, effectivement, la question, est-ce que le changement climatique, ça a un coût pour la SNCF, pour le transport ferroviaire? Ben, évidemment que la réponse, elle est oui. Et en fait, on a essayé de le décomposer. Donc, en fait, on va reprendre un peu la même structure. Hein, tout à l'heure, il y a la hausse des coûts, évidemment, de réparation, mais aussi de maintenance plus accrue, hein, puisqu'il va y avoir des phénomènes qui sont plus récurrents sur les réseaux, les gares, le matériel roulant, sur l'ensemble de nos actifs. Donc, je crois que sur le réseau ferroviaire, on commence à estimer, alors tout ça, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, entre 15 à 25 millions d'euros supplémentaires pour cet impact sur la partie physique, hein, or, astreinte, etc. Il y a la hausse des coûts d'entretien, notamment, par exemple, liés à la végétation, hein, parce que, qui prend beaucoup plus d'ampleur, voilà, et qui est moins stable, avec des feuilles qui tombent beaucoup plus souvent qu'avant, et pas à plusieurs périodes de l'année. Donc, en fait, ça veut dire qu'on entretient et qu'on doit venir plusieurs fois, en fait, sur zone pour pouvoir faire rouler nos trains. Mais à l'inverse, on a aussi des obligations de débroussaillement qui sont de plus en plus importantes parce qu'il y a aussi plus de risque de feux de végétation. Et ça, c'est ça se compte plutôt en centaines de millions d'euros. Hein. On n'est pas en milieu d'euros là. Et puis, il y a la hausse des coûts de surveillance parce qu'effectivement, si on veut faire de la prévention, il faut absolument aller voir notamment tout ce qui est ouvrage en terre, ouvrage hydraulique, vérifier que tout ça fonctionne bien parce que tant qu'on est dans des aléas ou de la météo un peu normale, ça passe. Dès qu'on est dans la météo exceptionnelle, ça passe plus. Et puis, forcément, une perte de productivité pendant les périodes de forte chaleur, et même des personnels qui sont touchés par les inondations. On a eu le cas dans le Nord, hein, nos propres personnels collaborateurs qui sont touchés par les inondations et donc, effectivement, ne sont pas aussi aptes, en tout cas, à une perte de productivité à ce niveau-là. Donc, mais tout ça, on l'a identifié, mais c'est bien difficile, en fait, à pouvoir identifier. Alors, on, évidemment, on a aussi la hausse de la sinistralité. Voilà, je ne vais pas donner trop de chiffres. Et puis, tout ce qui est perte de chiffre d'affaires, qui sont liés au fait qu'on va ralentir les trains, qu'on va perdre des péages, que quand même les trains supprimés pour cause d'intempéries ont été multipliés par 4 entre 2011 et 2023. Donc, on commence à avoir des suivis. En 2023, on estime à 21% la part de minutes perdues pour l'exploitation ferroviaire due aux intempéries. Voilà, on commence à avoir des chiffres. Mais tout ça, c'est à prendre avec beaucoup de réserve. Pourquoi ? Parce que nos bases de données, elles n'ont pas été conçues pour ça. Donc, on a du mal à taguer, en fait, hein, ce que c'est qui est lié à... À la limite, on peut taguer ce qui est lié à une météo. Mais qu'est-ce qui est la météo qui est liée au changement climatique ? Ça devient quand même beaucoup plus compliqué. Alors, quand on a des grosses catastrophes, là, ça se voit. Et là, à la limite, on peut aller détourer, en fait, l'impact financier. Quand c'est du bas bruit, comme on en parlait, je crois que c'est le sénateur qui en parlait tout à l'heure, là, quand c'est du bas bruit, c'est des choses un peu récurrentes qu'on ne voit pas très bien, mais qu'on sent, c'est une évolution tendancielle. Là, franchement, arriver à taguer, ça devient vraiment très, très difficile. Donc, en fait, après, comment on fait pour parler de trajectoire d'adaptation, de trajectoire financière ? Donc là, il faut commencer à regarder une boule de cristal sur l'avenir. Donc il y a des scénarios, il y a plein de choses, on a des modélisations, donc on ne parle pas de rien. Mais néanmoins, évidemment que on se base, hein, la plupart du temps sur des analyses de risques connues. Et il y a plein de risques en fait qu'on ne connaît même pas. Donc ça, on a quand même du mal à les évaluer. Je crois que ça avait été évoqué aussi dans la première partie. Et donc on est en train de gérer de l'incertitude. Et donc d'un point de vue économique ou financier, voilà, c'est pas chose de très facile. Et puis c'est surtout après, vous l'avez évoqué, c'est on s'adapte à quoi, quand, pourquoi, pour qui, comment, enfin voilà, vous avez toutes ces questions-là. Et alors là, le flot d'incertitude augmente. Finalement, c'est quoi le besoin de mobilité de demain? La collectivité, la société, qu'est-ce qu'elle voudra comme mobilité demain? Et effectivement, qu'on va peut-être plutôt partir des scénarios de la demande de mobilité, de voir si c'est des opportunités ou si c'est effectivement des renoncements. J'aime pas trop le mot, hein, mais bon, peut-être. Et c'est surtout en fonction en fait, de ce besoin et des financements que l'on aura, on pourra s'adapter à. Et là, on va faire des choix, enfin, avoir des critères en fait, d'appréciation. Et donc, notre stratégie, en fait, on l'applique là-dessus, puisque on va d'abord, en attendant d'avoir des scénarios. Et qui se stabilise, si un jour il se stabilise, parce qu'il faut être très humble et très agile dans ce domaine, on va d'abord faire tout ce qui est action et dépenses d'actions qui sont pas trop, dont le coût n'est pas trop élevé, qui sont faciles à mettre en œuvre. C'est ce qu'on appelle les investissements sans regret. Voilà. Donc ça, évidemment, sur l'exploitation, des mesures, voilà, on parlait tout à l'heure des toitures en blanc, etc. Voilà, il y a plein de solutions qui sont facilement accessibles et qu'on va mettre en premier. Évidemment qu'on va toujours aller, parce que ça coûte quand même, hein, les études de vulnérabilité, donc il faut aller beaucoup plus loin dans les études, hein, on manque de connaissances, donc il faut aller beaucoup plus loin dans les études macro. Il faut évidemment aller beaucoup plus loin dans la sensibilisation des équipes. Mais après, donc, façon en fait de bâtir la trajectoire, c'est d'aller chercher aussi tout ce qui est cycle de maintenance, de régénération en fait qui existe déjà, et profiter en fait de ces cycles en fait pour injecter en fait de nouveaux constituants, etc. Et ça sera effectivement à moindre, ça sera coûtera, mais voilà, ça pourra quand même rentrer en fait dans la trajectoire. Et puis après, bah, le plus gros, ça va être le rétrofit en fait du réseau ou en tout cas de notre matériel existant. Et là, par contre, ça va être des investissements qu'on ne sait pas complètement évaluer aujourd'hui et qui seront beaucoup plus lourds et qu'on va garder en dernier ressort quand on aura beaucoup plus de connaissances. Voilà. Et donc Et donc ça veut dire que tout ça, ça doit être prévu, ça doit être mis dans les lignes budgétaires, dans les business reviews, dans les contrats de performance avec l'État, avec les contrats avec nos autorités organisatrices, parce qu'on n'est pas les seuls acteurs. Donc tout ça, il va falloir l'intégrer. Et donc, voilà, c'est vraiment collectivement qu'on va arriver à gérer cette adaptation sur le court, moyen, long terme en matière de transport. Et je reprends quand même l'idée du territoire, hein, parce que effectivement tous les territoires ne sont pas les mêmes et toutes les activités sont interdépendantes. Et donc il va falloir quand même travailler tous ensemble pour voir comment s'adapter collectivement.
Bah, merci beaucoup. Alors peut-être sans transition, je passe la parole à Monsieur Rosemont.
Bon, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je rejoins tout ce que dit Madame Guerrero, effectivement. La Caisse des dépôts, c'est un animal particulier. Il faut quand même expliquer un peu les choses. On est un groupe avec un pied industriel qui est représenté notamment par des entités comme le groupe La Poste, comme également Transdev sur le secteur du transport, mais qui a un pied aussi financier extrêmement important avec BPI France, la Banque des Territoires, ou encore le volet bancaire du groupe La Poste, et donc dans lequel on retrouvera CNP Assurance. C'est important, je le précise, parce que en fait, on va avoir deux paires de lunettes différentes en fonction de la situation. La même paire de lunettes un peu que la SNCF, parce que on est une entreprise sur ce volet industriel de réseau au service des territoires, avec un enjeu de service public et finalement avec un engagement de présence territoriale extrêmement fort, où on doit amener et avoir accès à chacune des boîtes aux lettres de tous les citoyens qui se trouvent sur le territoire. Et ça, c'est un enjeu effectivement extrêmement important, extrêmement clé. Et sur ce point de vue-là, les difficultés, entre guillemets, les enjeux d'adaptation que peut avoir le groupe La Poste notamment, sont strictement les mêmes, avec quelques, on va dire, différences, puisque dans un cas, on est dans une gestion des horaires, dans une gestion de la logistique, qui va être un peu plus, on va dire, souple que peut avoir la SNCF, puisque la SNCF a besoin de déplacer des personnes. Nous, on a besoin de déplacer plutôt des colis et des marchandises. Ceci dit, pour revenir, et puis je ne vais pas parler plus longtemps que ça du volet industriel, il y a des choses quand même qui, finalement, nous semblent, on va dire, des équations un peu complexes. Je vais donner juste un exemple. Est-ce que vous saviez, par exemple, qu'une voiture électrique, même si elle contribue fortement à l'atténuation, quand la température dépasse 45 degrés, la batterie s'arrête. Et du coup, la voiture ne roule plus. Et donc, du coup, avoir une flotte 100% électrique n'est pas forcément complètement envisageable à partir du moment où on veut faire en sorte que tout le monde ait son courrier, son colis, ou sa commande de... Je dirais pas de Noël, puisqu'en l'occurrence, j'espère qu'il fera pas 50 degrés à Noël, mais ça commande pour l'été, pour avoir tout ce qu'on avait prévu d'avoir pour partir en vacances. Ça, c'est le premier point. Et donc, du coup, il y a cet enjeu d'adaptation, de mal-adaptation, donc, que vous aviez évoqué tout à l'heure, Vincent Viguet, justement par rapport à ce sujet de réfléchir les choses et appréhender le sujet de l'adaptation de façon globale sur une chaîne de valeur continue. Et de savoir comment ça va impacter finalement la mission première d'un acteur comme La Poste ou comme Transdev qui opère aussi du transport. Ensuite, il y a le volet financier. Donc du coup, on est de l'autre côté de la barrière parce que on est en train de se dire, mais comment est-ce que moi, en tant qu'acteur financier, enfin moi... la caisse, hein, on entend bien, comment est-ce que la caisse va pouvoir accompagner finalement l'ensemble de ces acteurs industriels et de ces chaînes de valeur, parce que je pense que c'est important de parler de chaînes de valeur, parce que derrière toutes les entreprises qu'on peut avoir devant nous, qu'elles soient cotées, non cotées, il y a des chaînes de valeur qui embarquent des PME, des ETI et des très petites entreprises, et elles sont toutes dépendantes de ces chaînes de valeur. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'effectivement on va accompagner cette adaptation et comment est-ce qu'on va pouvoir finalement leur mettre à disposition des solutions. Ces solutions, ça va être des solutions de financement, ça va être des solutions aussi d'identification d'actions simples, en l'occurrence parfois simplement permettre d'avoir des environnements, des locaux qui soient viables à haute température ou à très très basse température. Donc on est plus sur de l'accompagnement de solutions. Et en fait, le sujet, il va être multiple. Accompagner ces solutions, si je me positionne dans le futur, on va avoir effectivement des prêts dédiés qui vont nous permettre de finalement accompagner l'entreprise dans cette approche-là, et on va pouvoir considérer cette démarche-là comme étant une adaptation, enfin comme étant une démarche, un accompagnement de l'adaptation, mais on va jamais financer, en tout cas, on ne va pas encore financer tout de suite, ou on n'a pas tous les produits pour financer l'adaptation au sens pur du terme. Une rénovation d'immeuble, on va faire en sorte que la rénovation d'immeuble soit adaptée de façon générale et qu'elle ait finalement une double fonction. Effectivement, qu'elle contribue à atténuer le changement climatique, mais on va s'attacher aussi, dans la gestion de notre propre risque de portefeuille, de faire en sorte qu'elle intègre aussi le changement climatique. Et je me permets aussi de dire, je ne parlerai pas tellement d'accompagner le changement climatique, mais plutôt d'être confronté aux enjeux du dérèglement climatique, parce que quand on voit des amplitudes de température auxquelles on est confronté, on est plus sur un sujet de dérèglement, c'est-à-dire de pouvoir passer du jour au lendemain, avoir une amplitude de 50 degrés en passant de moins 10 à plus 30, ou enfin là en l'occurrence de 40 degrés, mais avoir des amplitudes extrêmement importantes. Et c'est ça aussi qui fait souffrir les infrastructures que, en tant qu'acteur financier, on peut avoir dans nos portefeuilles en nature de contrepartie. Et en fait, cette histoire d'adaptation au changement climatique et de l'accompagner financièrement, comment ça se concrétise quand on est un acteur financier? Quand on est un acteur financier, finalement, on mesure notre exposition au risque. Notre exposition au risque donc de transition et au risque physique. Et en fait, on est clairement confronté à un enjeu d'exposition au risque physique dès lors qu'on parle de financement. On va avoir une vision investisseur, c'est dans quelle mesure mon actif dans lequel je suis présent, dans lequel j'investis, va finalement être confronté à un risque de changement climatique, et comment est-ce que je vais pouvoir faire en sorte de débloquer éventuellement le capital nécessaire pour faire en sorte que ce risque soit jugulé, géré, piloté, pour faire en sorte que ça ne touche pas au modèle économique et que ça ne touche pas non plus à la qualité de l'actif. Le modèle économique, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est effectivement, on peut très bien avoir, et c'est pour ça que je prenais l'exemple de la voiture électrique, on peut très bien avoir des bâtiments parfaitement adaptés, mais si l'humain, au milieu de tout ça, n'est pas capable de produire le service attendu, c'est-à-dire amener le colis ou amener le courrier adéquat, finalement, le service n'existe plus et on a un problème d'enjeu d'adaptation au changement climatique. Ça, c'est sur la partie investisseur. Et sur la partie prêteur, on est toujours, finalement, dans une surveillance de nos propres actions de financement pour faire en sorte de se dire, notre produit, donc un prêt dédié à l'adaptation, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait pour les collectivités locales, pour les accompagner, un prêt dédié à l'adaptation qui va leur permettre de mettre en œuvre des solutions. Alors il y a les solutions classiques dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire je rénove un bâtiment, et puis il va surtout y avoir la façon dont je vais pouvoir aider via des financements incitatifs, plutôt à choisir une solution fondée sur la nature, et donc du coup accompagner au développement d'une solution qui va permettre de faire jouer son rôle premier à la nature pour pouvoir avoir un double service, un service écosystémique et en même temps un service au service de cette adaptation au changement climatique. Et tous ces produits, entre guillemets, enfin c'est même pas entre guillemets, c'est tous ces produits financiers vont permettre finalement de pouvoir diminuer le risque, mais on est encore une fois, on est dans une diminution du risque. Personne n'a la boule de cristal pour pouvoir dire si oui ou non, demain, on va pouvoir finalement réduire ce risque à zéro. L'enjeu, effectivement, est de pouvoir jouer sur les deux tableaux, jouer sur le tableau de l'adaptation et jouer sur le tableau de l'atténuation, mais pas l'un au détriment de l'autre, mais plutôt l'un avec l'autre.
Okay, merci beaucoup. Alors, peut-être comme le temps file, je vais donner tout de suite la parole à Monsieur Bouillon et Berthaud. Alors, peut-être Monsieur Bouillon premier. Donc vous êtes responsable de la sécurité nationale, donc secrétaire général à la défense nationale, et vous avez produit une stratégie de résilience pour faire face notamment au changement climatique. Et du coup, on se demandait un peu quelle était la place des impacts du changement climatique et de l'adaptation dans les menaces PI, et éventuellement si vous aviez des choses sur le rôle que pouvaient avoir des acteurs non étatiques dans ces enjeux.
Oui, merci de m'avoir invité pour évoquer le sujet. La stratégie nationale de résilience, c'était quelque chose qui a commencé à surgir, notamment après la crise du Covid, quand on s'est rendu compte que si on n'arrivait pas à faire travailler tout le monde pour avoir une forme de stratégie, on faisait de l'improvisation. Alors, comme on est français, ça marche bien, mais de temps en temps, avoir un peu d'organisation, de réflexion, de compte-rendu pour voir comment faire face à ce type de crise, c'est quand même pas mal. Au fur et à mesure des leçons, on s'est rendu compte que, certes, ça pouvait servir pour les sujets pandémiques, mais surtout, ça allait servir beaucoup pour les sujets environnementaux. Et de plus en plus, parce que les crises que nous connaissions et que moi j'ai connues quand j'étais préfet, c'est-à-dire une inondation, ça dure 8 jours, 15 jours, on déblaye, on nettoie et hop, on recommence à zéro. Tout ça maintenant est terminé. Maintenant, ça couvre de larges portions du territoire. Ça dure très longtemps. Ça se multiplie. Et donc, c'est très dangereux à traiter. Et c'est très long à remédier. Donc, on a essayé de réfléchir à la manière dont on pourrait imaginer une mobilisation, j'allais presque dire une économie de la résilience, qui prennent en compte à la fois le travail de réflexion sur le risque tel qu'il peut se produire, et donc analyser les vulnérabilités, les dangers, regarder comment en matière de prévention, on en a parlé tout à l'heure, on peut essayer d'y remédier, ensuite préparer justement les plans de réaction et faire travailler tout le monde encore une fois dans ce domaine, pour à la fin à la fois tirer parti de ce qui s'est produit pour s'améliorer, mais revenir, si je puis dire, à une sorte de normale améliorée. Et donc ça, c'était tout le principe de la stratégie nationale de résilience qu'on essaie de mettre en place et qui, évidemment, fonctionne à partir du moment où on associe très largement les collectivités locales, les entreprises, notamment ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, ceux dont les services sont essentiels à la qualité et au fonctionnement de la vie, et puis enfin, bien sûr, les citoyens, les consommateurs de sécurité que nous sommes, qui doivent aussi être des acteurs de sécurité, avec toute une notion de pédagogie qui doit pouvoir rentrer en ligne de compte là-dessus. Et donc, cette stratégie, c'est presque une économie de la résilience. À partir du moment où on est capable de réfléchir aux investissements qu'il faut faire en amont pour éviter d'avoir à faire face ou à subir les effets d'une catastrophe. Et on sait effectivement qu'aujourd'hui, 1 euro dépensé, c'est 8 euros de dégâts évités. C'est donc quand même un rapport qui est pas inintéressant, si je puis dire. Et ça vaut d'ailleurs dans tous les domaines, y compris entre parenthèses dans les domaines de la cyber. Donc à partir du moment où on sait que ce facteur-là est à prendre en compte, ça devient et que l'occurrence de la catastrophe, malheureusement avec le réchauffement climatique, devient de plus en plus importante, il y a une vraie valeur économique à faire en sorte que ces investissements puissent être organisés, non seulement donc encore une fois au niveau de l'État, au niveau des collectivités locales, mais aussi par les entreprises. Et donc tout le travail que nous essayons de mettre en œuvre, c'est d'amener les uns et les autres à réfléchir, à faire l'analyse chez eux de ce que ça peut représenter, pour ensuite regarder comment prévenir, réagir, s'entraîner et le jour venu faire face à la crise pour pouvoir se mobiliser. Ça recouvre donc toute une série de secteurs sur lesquels il faut qu'on puisse s'améliorer. C'est évidemment corriger les vulnérabilités des réseaux vitaux et donc faire en sorte que, malgré une catastrophe, tout ceci puisse continuer à fonctionner. C'est avoir des plans de continuité d'activité avec la formation des cadres et des agents dans les entreprises pour faire face aux catastrophes. Et puis aussi des chefs, parce que vous le savez bien, quand on a une crise, le chef arrive puisqu'il est là pour chefer, sauf qu'il n'a jamais fait de préparation à l'exercice de crise, qu'il ne connaît pas les gens et qu'il ne connaît pas les acteurs, et donc il va se planter pendant les heures stratégiques qui vont être nécessaires pour prendre les décisions essentielles. Donc il faut arriver à tirer le chef par la veste et l'amener dans une salle de crise pour voir, un, où est son bureau, deux, où est le téléphone, trois qui peut joindre et quatre avec qui va pouvoir travailler. Alors, je le dis en riant, mais malheureusement, c'est du vécu. Et donc, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on puisse pouvoir avancer dans ce domaine. Il y a aussi une question des stocks stratégiques de biens vitaux. Là aussi, vous vous rappelez que lorsqu'on a eu la crise du Covid, tout le monde a fait des provisions de papier toilette. C'était pourtant pas une épidémie digestive, mais tout le monde a acheté du papier toilette et donc on s'est retrouvé dans une situation où on avait un problème sanitaire, un problème économique, un problème de papier toilette et à l'inverse, pas de solution pour le sujet santé. Est-ce qu'on ne pourrait pas, sans compter les gens qui ont acheté du sucre, de l'huile, de la farine, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'amener nos concitoyens à réfléchir à un kit dit de survie qui permette d'avoir en cas de crise le minimum pour pouvoir avancer. Ça aussi, ça fait partie d'une économie de l'adaptation au changement climatique parce que en telle ou telle circonstance, on saura effectivement qu'il faut de l'eau ou qu'il faut autre chose, mais en tout cas, il faut le pouvoir le réfléchir et le préparer. Et donc cette notion de stock stratégique qui représente un coût. Mais si on a besoin de quelques jours de nourriture, c'est quand même mieux que d'avoir une pièce entière remplie de bidons d'huile. Donc il faut pouvoir se préparer à ça. Et puis quatrième élément aussi sur lequel nous souhaitons réfléchir, c'est les questions de réserves opérationnelles. Alors, il existe les réserves militaires, police, gendarmerie, tout ça est très bien. Mais dans toutes les entreprises, dans tous les opérateurs d'importance vitale, dans nos vies quotidiennes, dans nos communes, il y a des gens dont le maire sait très bien que si jamais il y a un feu de forêt, puisqu'on parlait des feux de forêt, ben, lui va pouvoir aller vérifier si tout a bien été débroussaillé à un moment, si les pompes à eau sont bien installées au bon endroit, et si on n'a pas oublié telle ou telle personne dans telle maison isolée. Et pour toutes les catastrophes, dorénavant, dans bon nombre de communes, ce genre de choses existe. Alors, parfois avec ce qu'on appelle un plan communal de sécurité, parfois simplement par l'improvisation, mais en tout cas, ce genre de situation fonctionne et peut s'organiser, se coordonner, y compris pour se donner un coup de pouce, parce que dans la commune, ok, tout ça va bien marcher, mais si dans la commune voisine, il y a une difficulté, peut-être qu'on peut trouver l'ancien infirmier, l'ancien conducteur de travaux publics qui va pouvoir prendre l'appel et qui va pouvoir aider et donner un coup de pouce. En clair, la stratégie nationale de résilience, c'est ça, c'est essayer d'organiser et de faire en sorte que tout le monde, en fonction de ses connaissances, de la nature du risque tel qu'il peut être posé, se mobilise et arrive à travailler en fonction de ses moyens, en fonction des investissements nécessaires. Et encore une fois, je le rappelle, c'est du vrai investissement. Je rebondis sur ce qu'on évoquait tout à l'heure avec le sujet des assurances. Je trouve que les assurances, puisqu'après tout, elle nous réclame d'avoir des serrures 4 points pour être remboursées, elle pourrait peut-être aussi faire des efforts pour baisser les primes lorsque nous avons fait, nous, les efforts pour nous préparer aux catastrophes. C'est un vaste sujet, je l'ai lancé à une ou deux reprises, ça fait pchit ou plouf ou plaf, enfin bref, ça n'a pas marché. Il n'en demeure pas moins que le sujet, à mon avis, vaut la peine d'être évoqué parce que ça fait aussi partie de l'économie globale. Autre élément que je voulais indiquer là-dessus, c'est qu'on a une directive qui s'appelle Résilience des entités critiques au niveau européen, qui a été adoptée en 2022, qui va être transposée en droit français au mois de janvier, et qui vise à prendre l'ensemble de ces éléments. Pour les opérateurs d'importance vitale, on en a 350, dont la SNCF, et donc qui sont astreints à un certain nombre de mesures qu'ils mettent en place pour se préparer à la crise, pour y faire face, pour avoir des plans de continuité d'activité et pour pouvoir y agir. Et on a même prévu, puisqu'il faut toujours un peu de bâton à l'arrivée, la possibilité d'avoir le cas échéant une commission, une autorité administrative qui pourra le cas échéant sanctionner ceux qui, après moult demandes et mises en demeure, n'auront pas fait ce qu'il fallait. Et après tout, c'est déjà un peu ce qui existe en droit lorsqu'on demande à la législation sur les installations classées de pouvoir être respectée par un certain nombre d'entreprises. Donc dans ce domaine-là, là aussi, il y a une capacité à essayer de convaincre et puis à un certain moment de contraindre. La clé, et on l'avait, je rebondis sur ce qui avait été dit tout à l'heure, c'est arriver à convaincre et à faire de la pédagogie. Alors, ce colloque y contribue, mais aussi pouvoir expliquer aux gens et parfois leur insuffler une petite dose de paranoïa que leur sécurité, elle dépend non seulement des réflexes basiques pour leur action, mais aussi de leur capacité à aider leurs voisins et à travailler avec leurs voisins pour fonctionner, qu'une entreprise ne peut pas vivre toute seule en considérant que ce sera à l'État à assurer sa protection contre les inondations, contre les feux de forêt, mais qu'elle aussi, elle a un rôle à jouer et qu'elle doit pouvoir investir dans tel ou tel domaine, ça fait partie effectivement d'une action pédagogique qui n'est pas négligeable dans le domaine de la SNR et sur laquelle nous essaierons de pousser les feux tout au long de l'année.
Merci beaucoup. Et est-ce que quelque part, on peut dire que c'est insuffler une culture du risque en France
Alors, je ne dirais pas forcément la culture du risque, je dirais la culture de la responsabilité. Parce que les risques, on en a tous les jours, et se protéger contre le risque, c'est, même en restant dans son lit toute la journée, on risque d'avoir à ce moment-là des escarres. Donc, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la culture de la responsabilité, c'est-à-dire que chacun, nous avons notre rôle à jouer pour permettre à notre société, à notre environnement, à notre cadre de vie de pouvoir fonctionner. Et cette responsabilité, il ne faut pas la donner seulement au pouvoir public, il ne faut pas seulement la donner au patron, il ne faut pas seulement la donner à qui vous voulez ou aux juges qui vont arriver pour après sanctionner ceux qui n'auront pas fait le boulot, il faut la porter chacun en tant que citoyen. C'est la même chose que d'aller voter. Ça fait vraiment partie du devoir de citoyen de jouer cette responsabilité.
Merci beaucoup. Et du coup, je donnais la parole à Pascal Berthaud, donc, qui est directeur général du CEREMA. Et la question, du coup, dont on a pu discuter, c'était le CEREMA a mis en place une politique d'aide à l'adaptation en direction des collectivités territoriales. Et du coup, quelles aides proposez-vous aux collectivités et les collectivités en France, vous semblent-elles conscientes de la nécessité de repenser peut-être leur fonctionnement, leur modèle économique face aux impacts du réchauffement climatique?
Merci, oui, c'est... Le CEREMA, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est l'héritier de tous les services techniques de l'ex-ministère de l'Équipement dans le temps longtemps. Et c'est vrai que le sujet adaptation nous touche particulièrement, d'abord parce que quasiment toutes les activités humaines sont touchées. Dans notre portefeuille d'activités, il y a les routes. Alors les routes, vous dites, c'est des tas de cailloux et puis avec un peu de colle au-dessus de l'enrobé pour que ça tienne. Vous dites finalement le changement climatique, ça ne va pas changer grand-chose. En fait, pas de chance. Le dimensionnement de chacune des couches de cailloux, il est fonction de la température et de l'hygrométrie, soit exactement les deux paramètres qui vont varier. Et donc, en réalité, quasiment tous les facteurs de l'aménagement du territoire, pris au sens large, sont touchés par le changement climatique. Après, il y a derrière ça... Deux éléments qui contrebalancent et qui font qu'on peut avoir une vision plus ou moins optimiste quand même de la chose. D'abord, ça a été dit tout à l'heure, c'est que autant en matière de mitigation, ça dépend de ce qu'on fait nous, mais ça va dépendre de ce que font les Chinois, les Américains, etc. Autant en matière d'adaptation, c'est un sujet purement local. Sur le terrain, et donc quelque part la façon dont nous vivrons le changement climatique dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça dépendra de ce qu'on aura fait pour s'adapter depuis 10 ans, aujourd'hui, dans 10 ans, etc. Et puis la deuxième élément un petit peu positif, c'est que on a... Ah, ça marche pas bien. D'accord, merci. Ouais, le deuxième élément positif, c'est que quasiment sur tous les sujets, on a des solutions techniques. Et puis on en inventera d'autres, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on n'est pas démunis et on n'est pas comme sur certains sujets où un certain nombre de gens qui disent finalement la seule solution c'est la décroissance, c'est d'arrêter, j'allais dire de revenir à l'âge de pierre, c'est pas forcément le mot. Là finalement on a des solutions. Alors des fois les solutions bien évidemment, et souvent même c'est du changement de comportement, des fois c'est des solutions technologiques, mais on n'est pas coincé dans un truc où on se dit il va falloir vraiment qu'on revienne en arrière dans le développement de l'humanité. Alors à partir de là évidemment on a évidemment des changements à opérer particulièrement importants. Simplement citer quelques éléments. Sur le littoral, les tempêtes qui aujourd'hui sont centennales, statistiquement arrivent une fois tous les 100 ans, en 2100, elles seront annuelles. Ça change tout, parce que la tempête centennale, ça casse tout. Bon, l'année d'après, on répare, et puis on espère que ça ne va pas revenir souvent. Si ça revient tous les ans, ça veut dire qu'on ne peut plus du tout aménager les fronts de mer comme ils sont aménagés aujourd'hui sur nos 6000 km de côte. Les questions de ville, on voit évidemment que les questions d'îlots de chaleur urbains deviennent de plus en plus importants, mais à contrario, on sait effectivement, en désimperméabilisation, en végétalisant, on sait arriver effectivement à changer le microclimat dans ces zones particulièrement denses des villes. J'entendais tout à l'heure parler du retrait-gonflement des argiles. Il y a effectivement là aussi un certain nombre de solutions. On travaille notamment sur des solutions qui consistent à récupérer l'eau de pluie sur la toiture et de le réinjecter sous les fondations, ce qui fait qu'évidemment, le taux d'humidité reste tout le temps le même sous la fondation et il n'y a plus de retrait-gonflement. Donc si vous voulez, là, on a effectivement, et c'est le grand intérêt, on a des solutions, on va en développer. La question, évidemment, elle est celle du financement, bien évidemment, et puis de la capacité technique, je dirais, de l'ensemble des collectivités sur le terrain à faire. Derrière, ça génère en plus, évidemment, des inégalités sociales, etc. La bonne nouvelle, c'est qu'on a effectivement un petit peu de temps devant nous. Encore que si on prend les 2 ou 3 dernières années avec des catastrophes importantes, on se dit c'est tout pour tout de suite. Après, faut regarder ça dans le temps. Moi, j'ai eu la chance d'être directeur de l'eau dans les années 2000. Donc, j'ai géré toutes les inondations 2002, la canicule 2003. 2005, on avait à nouveau des inondations. Enfin, et ce qui est terrible, c'est qu'après, il s'est passé quelques années où, justement, il ne s'est plus rien passé. Et du coup, on a un peu arrêté. Alors, évidemment, avec le changement climatique, les événements deviennent de plus en plus violents et surtout de plus en plus fréquents. Donc on peut penser qu'il y aura les périodes où il ne se passera rien seront de plus en plus courtes. Mais en tout cas, on a quand même effectivement une capacité à raisonner sur le temps long. Ça veut dire effectivement à l'échelle d'une collectivité être capable d'anticiper l'évolution du climat avec notamment pas mal de choses sorties par Météo France qui permettent aujourd'hui sur un territoire d'avoir une vision quand même assez réaliste de qu'est-ce que sera le climat sur mon territoire dans 20 ans, dans 50 ans, qui permettent évidemment derrière de bâtir un plan sur 10 ans, sur 20 ans, en priorisant les leviers d'action. Et donc, c'est ce premier message moi, que je voulais passer. C'est-à-dire qu'à la fois, on a quelque chose de terrible et d'hallucinant parce que ça va toucher toutes les activités humaines. On est sur quelque chose d'assez monstrueux. Et en même temps, on a des solutions, on a un petit peu de temps, donc si on commence dès à présent, on a une petite chance que ça se passe pas si mal que ça. Le corollaire de ça, c'est quand même que si on ne s'en occupe pas dès maintenant, et même, j'allais dire, dès il y a 10 ans, ça peut être quelque chose comme l'humanité en a très peu connu depuis 10 000 ans. Hein. Enfin, je ne veux pas parler d'extinction de l'espèce, parce que quand on regarde les crises dans l'histoire de l'humanité, on s'en est toujours sorti, mais enfin avec des millions de morts. Puis je connais des copains dinosaures qui, eux, s'en sont pas sortis, justement. Donc voilà, à la fois, on peut être très optimiste, mais à la fois, si on fait rien, ça peut être une vraie catastrophe. Du coup, effectivement, nous, derrière, on propose aux collectivités de les accompagner. La ministre Agnès Pannier-Runacher vient d'annoncer la mise en place d'une mission adaptation. La mission adaptation, c'est une cinquantaine de personnes, essentiellement en région, pour être capable justement de répondre à toutes les collectivités qui souhaitent développer quelque chose. Parce que c'est quand même aussi un élément important, c'est que la conscience politique de ces besoins d'adaptation est aujourd'hui assez forte. Il y a 10 ans, objectivement, quand vous parliez adaptation, tout le monde vous regardait en rigolant. Je crois que le Covid a quand même bien fait évoluer les esprits et tout le monde s'est rendu compte que, ah zut, tout d'un coup, ça pouvait être complètement différent. Et donc, on a aujourd'hui des collectivités qui sont plutôt volontaires, mais qui bah, en gros, sont un peu comme une poule qui a trouvé un couteau. Et donc, je crois que l'enjeu de cette mission adaptation, c'est de pouvoir les accompagner. On est en train d'ouvrir un service SOS adaptation qui sera opéré notamment par cette mission, où finalement, on a fait la même chose d'ailleurs pour les ponts, pour les friches, c'est la capacité d'accompagner la collectivité pas à pas pour mettre en place les études qui vont bien, les stratégies qui vont bien, etc. Derrière, évidemment, on va un peu plus loin en mettant en place des appels à partenaires. On en a un en ce moment sur le plus 4 degrés avec une trentaine de collectivités. L'idée, c'est assez simple, c'est on prend des collectivités qui ont envie, des territoires qui ont envie d'être pionniers, et puis bah, collectivement, on met les mains dans le cambouis. Voilà. Quels vont être les impacts sur l'ensemble des territoires, des collectivités en question, et quelles solutions on peut mettre en place. Ça marche assez bien, on aime beaucoup ce type de méthode au CEREMA, parce que on peut faire des guides, des machins sur table, très théoriques. En vérité, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de tester et que ce soit quelque part des collectivités qui parlent à d'autres collectivités. Donc là, moi, j'ai fait ça, j'ai fait comme ça, ça a donné tel résultat. Ça a marché, ça a moins marché. Donc c'est cette méthode, effectivement, qu'on essaye de pousser assez fortement. Et ce qu'on voit, nous, vraiment de plus en plus, bon, le CEREMA, on a ouvert notre gouvernance aux collectivités. On a aujourd'hui un millier de collectivités adhérentes. Et c'est que finalement, ces sujets-là, aujourd'hui, ils sont au cœur des réflexions et au cœur de la volonté des collectivités de venir travailler avec nous. Et je vais terminer sur ce message d'optimisme. Un, il y a une volonté politique forte. Et en tout cas, les collectivités avec qui on travaille, bah, elles mettent les mains dans le cambouis. Alors, évidemment, il y a la question du financement. Tant qu'il n'y en a pas beaucoup, elle se pose pas trop. On arrive à trouver des fonds entre le fonds vert, même si il va être réduit en 2025. Mais en même temps, le nombre de projets prêts va aussi être réduit, parce qu'en 2024, on avait 2023-2024, on avait plutôt financé les projets prêts. J'ai envie de dire qu'évidemment, dans les années qui viennent, il va y avoir un vrai sujet d'accompagnement financier. En même temps, je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est plutôt d'avancer avec les collectivités dans les démarches, de bâtir les projets. C'est pas toujours de l'argent. C'est pas toujours de l'argent. C'est aussi des fois des changements de façon de faire. Et nous, on fait le pari, effectivement, que quand les projets seront suffisamment prêts, les fonds suivront, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Je veux dire, on n'a pas le choix. Et aujourd'hui, la conscience politique de « on n'a pas le choix », elle est en train de se renforcer assez fortement. Donc c'est vrai qu'on fait plutôt le pari de ne pas attendre que tous les financements soient là pour avancer. Et en se disant, quand les projets seront prêts, quand les collectivités seront vraiment au pied du mur et que l'argent commencera à manquer, je suis absolument certain qu'on arrivera à le mettre.
Bah, merci beaucoup. Alors, je crois que comme on est en retard sur le planning, on est obligé d'interrompre la session. Est-ce que Patricia, un mot de conclusion?
Voilà, un mot, parce qu'effectivement, on manque un petit peu de temps, mais si je voulais résumer en une ou deux phrases. Les débats vraiment passionnants qu'on a eu à cette table ronde, je pense que ce qui est crucial, c'est de comprendre que l'inaction face au changement climatique, c'est pas une option viable. J'aime beaucoup l'expression de cette culture de la responsabilité, l'économie de la résilience. 1 euro dépensé, 8 euros de dégâts évités. Voilà, la SNCF nous a montré aussi les coûts de l'adaptation qui peuvent être très importants, et donc c'est vraiment vital d'investir en amont pour développer cette résilience là mais essayer de terminer aussi sur un message un petit peu optimiste, hein. Voilà, l'adaptation c'est de la résilience qui représente une opportunité de transformation économique et qu'on a des solutions techniques, des solutions comportementales, et que voilà, le futur n'est pas forcément si noir que ça. Voilà.
Merci beaucoup à tous. Et peut-être sans transition, les dernières interventions